Bonjour Margot.
Bonjour Hervé, bonjour à tous. Les nouvelles règles d'indemnisation du chômage sont appliquées à partir d'aujourd'hui. Il sera plus dur de toucher ces allocations. On fait le point sur ce qui change.
Le dialogue social, la réforme du ferroviaire, la rénovation du réseau. De nombreux dossiers attendent le nouveau patron de la SNCF. Jean-Pierre Farandou prend ses fonctions aujourd'hui.
Les patrouilles conjointes russes et turques commencent aujourd'hui en territoire syrien dans le nord-est, à la frontière. Tant que le Brexit n'a pas lieu, 5 eurodéputés français ne peuvent pas exercer leur mandat, on vous expliquera. Et la question du jour. Bonjour Hervé.
Pourquoi Twitter interdit les publicités politiques? Nous en discuterons avec François Bernard Huyghe, directeur de recherche à l'IRIS. Il est l'auteur de Fake News, La Grande Peur aux éditions VA.
Parmi ce qui change au 1er novembre, il y a les règles de l'assurance chômage. Cela concerne 2,6 millions de demandeurs d'emploi. La première série de mesures entre donc en vigueur aujourd'hui. Les conditions d'accès à l'indemnisation se durcissent, Catherine Pétillon.
C'est l'une des réformes les plus dures socialement de ces 25 dernières années, ne décolère pas Laurent Berger. Le leader de la CFDT parle même, je cite, de tuerie. La transformation des règles de l'assurance chômage est en tout cas radicale et 710 000 personnes seront touchées négativement dès la première série de mesures, estime l'UNEDIC qui gère l'assurance chômage. Premier changement, il devient plus dur d'avoir droit à des indemnités. Il faudra avoir travaillé plus sur une période plus courte, 6 mois sur les 24 derniers mois au lieu de 4 mois au cours des 28 derniers mois. L'autre grande modification concerne les personnes enchaînant les petits contrats. Jusqu'à présent, le fait de retravailler prolongeait l'indemnisation, c'est ce qu'on appelait recharger ses droits. Quand un demandeur d'emploi a travaillé au minimum un mois ou 150 heures, il voyait sa durée d'indemnisation prolongée d'autant. Dorénavant, il faudra avoir travaillé au moins 6 mois. La ministre du Travail estime qu'un marché de l'emploi plus dynamique justifie un durcissement des règles. Jean-Paul Domergue de l'association Solidarité Nouvelle contre le chômage s'inquiète lui des conséquences pour les plus précaires.
Les gens ne se rendent pas compte encore quand ils vont découvrir quelles sont les mesures qui vont leur être appliquées. Ça va être dur. C'est présenté de telle façon par les pouvoirs publics que c'est compliqué, c'est très technique. Donc les gens ne perçoivent pas quelles vont être des conséquences qui vont être très sévères pour la plupart des personnes qui n'ont pas un emploi stable. Ça va concerner les plus fragiles.
Du côté de Pôle emploi comme de l'UNEDIC, on reconnaît que le plus dur est à venir au printemps prochain. Après l'entrée en vigueur des nouvelles règles de calcul au mois d'avril, les chômeurs verront leur allocation mensuelle baisser, parfois drastiquement.
Catherine Pétillon du service économie de France Culture. Y a-t-il une bonne assurance contre le chômage? Hervé Gardette posera la question à ses invités à partir de 7h40. Autre changement, les tarifs réglementés de vente du gaz appliqués par Engie à des millions de foyers français vont augmenter de 3% au mois de novembre selon la commission de régulation de l'énergie. Du nouveau à la SNCF également, c'est aujourd'hui que Jean-Pierre Farandou succède à Guillaume Pépi. De nombreux défis l'attendent. Hier matin, deux sites de maintenance en banlieue parisienne ont été touchés par des débrayages et un mouvement de grève est toujours en cours au technicentre des TGV Atlantique. Une grande mobilisation est même prévue le 5 décembre prochain pour protester contre la réforme des retraites. Jean-Pierre Farandou prend donc les rênes dans un climat tendu, Diane Berger.
Le premier défi de Jean-Pierre Farandou, relancer le dialogue social à la SNCF. Il était complètement paralysé, selon Didier Aubert, secrétaire général de la CFDT Cheminots, depuis le mandat de Guillaume Pépi.
Il a cautionné le fait qu'il fallait supprimer les instances de proximité en termes de représentation du personnel, en mettant des instances loin du terrain, qu'il n'y avait plus de dialogue social de proximité. Et ça se paye immédiatement. Et on le voit, on a Châtillon, on a le droit de retrait qu'il y a eu la semaine précédente, parce qu'il n'y a plus de discussion. Et Jean-Pierre Farandou a une responsabilité énorme dans ce cadre-là pour apporter des réponses concrètes.
L'autre grand chantier, c'est la réforme du ferroviaire qui entre en vigueur le 1er janvier prochain. Ouverture à la concurrence, fin du statut des cheminots, un véritable Big Bang pour la SNCF. Didier Matisse de l'UNSA Ferroviaire espère que les expériences de Jean-Pierre Farandou, ingénieur rentré à la SNCF en 1981, l'aideront dans ce dossier lui aussi très délicat.
Alors monsieur Farandou correspond au profil que nous avions demandé au gouvernement, à savoir un profil industriel issu du sérail. Parce que comme aujourd'hui le climat social est très difficile et la réforme du ferroviaire va tomber au 1er janvier, Nous voulions quelqu'un qui connaisse très bien l'entreprise pour gagner du temps par rapport aux problématiques qui demandent des réponses immédiates.
Le dernier dossier qui attend Jean-Pierre Farandou, la rénovation du réseau. Ces dernières années, les investissements de l'entreprise s'étaient surtout portés sur les grands axes du TGV et pas sur les petites lignes de proximité et les trains du quotidien dans un état aujourd'hui très dégradé.
Diane Berger, le gouvernement a dévoilé hier 23 mesures pour aider la Seine-Saint-Denis, département qui cumule le plus haut taux de pauvreté et de criminalité de métropole, d'après un rapport parlementaire. Mis à part l'annonce d'une prime de 10 000 euros pour les fonctionnaires qui restent au moins 5 ans sur le territoire, il y aura bientôt 150 policiers supplémentaires. Pour de nombreux élus, comme Sylvine Thomassin, maire socialiste de Bondy, ce n'est pas suffisant.
À vrai dire, je suis un peu douchée. Je suis quelqu'un de très optimiste et je pensais qu'après le plan Borloo avorté, ou en tout cas où il n'avait pas pris grand-chose, ce gouvernement avait compris qu'il fallait changer de braquet. Et donc je suis venue avec mon optimisme, mon enthousiasme. Et là, certes, ils ont pris en compte la Seine-Saint-Denis, et c'est quelque chose d'important. Le diagnostic est bon. Il dit exactement ce que n'importe quel maire ou parlementaire pourrait dire. So what ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Ce que j'ai entendu, je vais vous prendre l'exemple de la sécurité, ça va faire à la louche, allez, 2 policiers de plus par ville. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça va changer quelque chose en Seine-Saint-Denis ? Pour un territoire de 1,7 million habitants, où on sait que le trafic de drogue gangrène les promesses d'avenir que la Seine-Saint-Denis comporte. Je suis vraiment très très déçue. J'ai un peu l'impression, comme d'habitude, que ce gouvernement comporte des ministres talentueux, intelligents, brillants, mais qu'il leur manque l'intelligence des territoires. Ils sont passés à côté. En tout cas, sur la sécurité, ils sont passés à côté. Sur l'éducation, il en manque. Donc je demande de la pérennité, de la qualité, de la quantité. Ils ont compris. Mais l'essai n'est pas transformé.
Propos recueillis par Rosalie Lafarge.
France Culture, il est 7h06, la suite du journal de Margot Delpierre. Les patrouilles turques et russes vont se déployer aujourd'hui dans le nord de la Syrie.
Oui, dans une zone frontalière proche de celle où a commencé l'offensive turque le 9 octobre dernier contre des combattants kurdes. Offensive qui a permis à la Turquie et ses alliés de s'emparer d'une bande frontalière de 120 km. Bertrand Galichet.
Le régime turc veut vérifier que les Kurdes ont bien abandonné la zone d'exclusion dont le périmètre a été défini conjointement avec Moscou. L'application de cet accord russo-turc confirme la place centrale de la Russie dans la région. Didier Billion, spécialiste de la Turquie à l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques.
Désormais, c'est la Russie qui possède les meilleurs atouts pour tenter de parvenir à un accord de paix politique. Les opérations militaires, pour l'essentiel, sont derrière nous, donc il va falloir passer à la phase diplomatique. La Russie est incontournable. Quand elle s'engage sur un dossier, eh bien, elle donne des garanties.
C'est la Russie qui a insisté pour que des patrouilles conjointes aient lieu.
C'est la Russie qui, quand même, impose son tempo, son agenda. Si des éléments de milices kurdes restaient dans la région qui, théoriquement, désormais leur est interdite, ces milices se feraient rappeler à l'ordre et par les Russes et par le gouvernement syrien.
Plus à l'est, où les combattants kurdes se sont repliés, des forces américaines patrouillaient hier dans une zone proche de la frontière avec la Turquie, un secteur que les États-Unis avaient quitté il y a 3 semaines.
Et hier, le président syrien Bachar al-Assad a déclaré qu'il ne voulait pas faire de la Turquie voisine un ennemi malgré le déploiement turc dans le nord du pays. Notons que la Turquie a convoqué hier l'ambassadeur de France à Ankara, agacé par l'adoption par le Parlement français d'une résolution critiquant son offensive en Syrie. La Syrie où est mort dans une opération américaine il y a plusieurs jours le chef du groupe État islamique, Abou Bakr al-Baghdadi. L'organisation extrémiste l'a confirmé hier. Un successeur a été nommé, Abou Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Dans un enregistrement audio, le groupe a appelé à venger cette mort en menaçant particulièrement les États-Unis de représailles. La Chambre des représentants au Congrès américain a adopté une résolution dans la procédure de destitution du président Donald Trump hier. Elle donne un cadre formel aux investigations et autorise des auditions publiques. Donald Trump a dénoncé, je cite, « la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine ». Le président américain s'est aussi exprimé sur le Brexit. Selon lui, l'accord négocié par le Premier ministre Boris Johnson ne permet pas de conclure un accord commercial avec le Royaume-Uni. Le chef du parti travailliste britannique Jeremy Corbyn l'a accusé d'essayer d'interférer dans les élections élections locales. Les législatives anticipées sont prévues le 12 décembre. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne aura lieu au plus tard d'ici janvier, a promis Boris Johnson. En attendant, 5 eurodéputés français patientent. Ils ont été élus au mois de mai dernier et ne prendront leur fonction qu'après le Brexit. Le nombre de sièges attribués à la France passera en effet de 74 à 79 une fois le divorce officialisé entre Londres et Bruxelles. Et ça devient long, Cyril Graziani.
Certains de ces futurs eurodéputés se sont surnommés les congelés, voire...
On a même été jusqu'à parler de député Picard.
Ilana Sicurel, future députée européenne Renaissance, le courant d'Emmanuel Macron en Europe, met à profit cette attente.
Nous avions le doigt sur le bouton décongélation et puis on a compris qu'il fallait encore attendre. Forcément, il y a un peu d'impatience, bien sûr.
Et comment justement vous la gérez, cette impatience?
En politique, souvent, c'est la précipitation. Vous faites une campagne et le lendemain, vous entrez en fonction. Et on n'a pas toujours la chance d'avoir, alors pour pas parler de congélation, mais de quelque chose qui est peut-être plus inspirant, de suspension. C'est-à-dire que vous avez quelques mois où vous savez que vous allez remplir une fonction, mais vous avez le temps pour arriver plus prête que prête au moment où je pourrais agir pour l'avenir des Français et des Européens.
Depuis 6 mois, ces 5 élus un peu spéciaux guettent les rebondissements du Brexit. Claude Gruffa, pour Europe Écologie, lui, ne s'y voit pas encore.
On me dit, monsieur le député européen, non, je ne suis pas encore. Je suis en passe de l'être simplement si le Brexit a lieu, un jour. Et vu que ça fait 3 ans et demi que ça dure, je pense qu'il faut quand même encore mettre le si.
Le futur eurodéputé écolo, s'il devait choisir, privilégierait le maintien des Britanniques dans l'Union européenne à son siège à Strasbourg.
Cyril Graziani, nous reparlerons du Brexit à 7h35 après le journal dans la revue de presse internationale de Marie-Pierre Véraud. Voilà peut-être une idée de lecture en ce week-end de la Toussaint. Civilisation de Laurent Binet a reçu hier le grand prix du roman de l'Académie française. Auteur qui avait reçu par le passé le Goncourt du premier roman et le prix Interallié pour d'autres œuvres. Dans son dernier livre, il imagine la conquête de l'Europe par les Incas au XVIe siècle. Si vous préférez lire que sortir, pas de regret. Aujourd'hui, Météo France prévoit des nuages et de la pluie sur tout le pays. Le soleil ne devrait se montrer qu'entre Marseille et Nice. Ce matin, les températures sont fraîches. 2 à 4 degrés seulement dans le nord-est, entre 5 et 13 degrés ailleurs, jusqu'à 15 sur le littoral atlantique et en Corse. Cet après-midi, les maximales seront de 12 degrés à Strasbourg, 13 à Lille, 15 à Paris, 14 à Lyon, 19 à Bordeaux et 24 degrés à Hendaye, Hervé.
Merci Margot Delpierre, on vous retrouve à 7h30. Dans un instant, on va parler de Twitter dans la question du jour. Pourquoi le réseau social a-t-il décidé d'interdire la publicité politique? Il est 7h12 sur France Culture.